D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sugel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à Juvon.
Ça va, mec?
Oui.
Ça vaut moins que sont là.
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon!
Ouais!
Les pieds sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Salut à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Enfants d'Europe 1. Merci de votre fidélité à cette antenne et à cette émission, votre courrier en témoigne. Europe numéro 1, devenue Europe 1, c'est une station qui, pour beaucoup de jeunes futures vedettes du showbiz en général et de la chanson en particulier, a été, dès les années 60, une sorte de deuxième maison, pour reprendre l'expression employée il y a quelques mois par Dick Rivers à ce micro. Mon invité d'aujourd'hui a été l'un des piliers de cette maison, un de ces enfants d'Europe 1, fantaisiste, chanteur, ambassadeur de la bonne humeur. Il poussera même l'attachement jusqu'à partir en vacances avec la station sur le podium itinérant qui sillonnait les routes de France, un podium d'Europe numéro 1 que l'on retrouve en 82 à Reims, au milieu du vignoble champenois, une façon comme une autre de vous présenter celui qui est assis en face de moi.
Vous savez, vous l'attendez, vous l'aimez, vous avez envie de faire la fête avec lui. C'est le champion du rire et vous allez le constater encore ce soir. C'est le roi de notre carnaval. C'est qui? C'est qui? C'est lui, c'est Carlos!
Est-ce que ça va? Je t'entends pas, hein, je t'entends pas, est-ce que ça va? Ça va toujours bien? Il y a une chanson que je voulais vous chanter, là. Et puis on m'a dit non. Non, c'est une chanson que c'est mon chef d'orchestre qui est là, qui est d'à côté, qui a des pernets. Ce Fratin, il m'a dit que le public de Reims, c'est un public formidable, je le savais, je vous connais. Je chantais souvent devant vous, un public extraordinaire. C'est vrai que vous êtes extraordinaire, mais c'est un public très pudique et très timide. Est-ce que c'est vrai? Il y a une chanson que je voulais vous chanter où je parle de petits baisers. Est-ce que je peux parler de petits baisers devant vous ce soir, oui ou non? De petits bisous, je peux en parler? De gros bisous, je peux en parler? Et de big bisous aussi? Alors on y va pour le big bisous. Moi je vais te dire un truc. Approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Moi je vous le dirais, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Bercer nos grands-mères. C'est tellement de manières qu'ils mettent parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé.
Salut Carlos.
Salut. Ah là là, que de souvenirs depuis le début de, du jingle de début. Parce que Europe 1, c'était notre première radio libre.
Oui. Libre.
C'était la première radio libre. Parce que, bon,
on ne peut pas s'exprimer sur les autres.
C'est pas ça, c'est-à-dire qu'en 56, moi je me souviens très bien, j'avais 13 ans, avec, il y avait Merlin.
Louis Merlin, oui.
Louis Merlin et Foirat, c'est même Foirat, mon copain, mon camarade, qui avait son diplôme de chaudronnier, c'est tout. Et que cette station a explosé, c'est-à-dire que c'était plus les mesdames et messieurs, bonsoir, mes chers auditeurs, bonsoir. Une maman m'écrit du Tréport, le petit Bruno a perdu sa pelle. Non, c'était pas ça, c'était les animateurs, les gars, les proches des gens, une espèce de ton tout nouveau. Et puis surtout, pour nous qui étions fous du jazz, pour ceux qui aiment le jazz, avec Franck Treno, Daniel Filipaski, comme on les appelait à l'époque. Et on s'arrêtait, parce qu'il n'y avait pas de radio dans les bagnoles, on s'arrêtait dans les bistrots pour écouter l'émission. C'est extraordinaire. Et puis ces informations, ces espèces de contacts qu'il y avait avec les gens, tout ce que j'ai entendu là, je l'ai vécu, mais 68, bien sûr, avec les problèmes des bagnoles qui ont été interdites, alors les gars qui montaient avec les téléphones sur les balcons.
Ouais.
Tout ça, j'ai vécu ça comme si c'était hier. Hein,
Et comment tu t'es retrouvé enrôlé dans ce Barnum orange et noir, c'était les couleurs de la station à l'époque, à faire les tournées d'été?
Bien, d'abord, c'est très drôle parce que moi, j'ai commencé, travailler avec Johnny et Sylvie en 60.
Mais on va en reparler de Johnny et Sylvie.
Non, mais c'est comme ça que j'ai connu Europe 1, Maurice Siegel, qui était mon pote, et Lucien Maurice.
Ouais, directeur des programmes.
Directeur des programmes, qui était un homme assez extraordinaire, avec qui était non seulement un philosophe, mais un mec tendre, qui était aussi un rêveur, et c'est lui, un jour, je faisais la promotion des disques Johnny et Sylvie, qu'on se voyait dans son bureau à chaque fois, on passait une heure ou deux, on parlait de tas de choses. Et il m'a dit, tu sais, toi, tu fais la promotion de Johnny et Sylvie. J'ai dit, oui, je m'occupe dans toutes les radios, je fais gaffe, les journaux, machin, oui. Et il dit, mais c'est facile, la promotion, tu sais ce que c'est? Je dis, non. Il dit, tu vois, moi, je suis malin, je suis pas costaud, je prends une pierre dans la main, je la jette, elle fait 30 mètres, et puis elle roule, parce que c'est une pierre. Toi, tu prends une pierre dans la main, elle fait 50 mètres, et puis elle roule, puis elle s'arrête, parce que c'est une pierre. Je dis, oui, alors, je comprends pas. Il dit, tu prends un oiseau dans la main, tu le lances, le mien, il va faire 30 mètres, puis il va voler, parce que c'est un oiseau. Le tien, il va faire 50 mètres, puis il va voler, parce que c'est un oiseau. Ça veut dire que c'est en fonction de ce que tu fais, la promotion de quelque chose, tu peux le faire connaître plus vite, mais si c'est pas bien, ça marchera pas. Si c'est bien, ça volera tout seul. Et ça, je l'ai toujours gardé, cette phrase. Alors, on était en train de parler de ça, puis j'ai dit, tu vas faire, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, j'ai un dîner à la maison. Il dit non, tu fais l'antenne. Quoi? Dans le vent. J'ai dit, quand tu tiens, ça va pas.
L'émission de Cogoni.
Oui, parce que Michel était parti. Alors, il descend, il ouvre la porte. Il y avait Fan, qui était réalisateur ici. Et il dit, c'est Carlos qui fait l'émission à la place. Et je me retrouve devant le micro à Europe, avec, à l'époque, il n'y avait pas les pubs enregistrées. C'était des piles de pulls blanches et les communiqués roses. Mmh. Et on finissait l'émission, on avait 50 cm de papier autour de soi, on lisait tout et on balançait les disques. C'était formidable, c'était ça Europe 1 pour moi. C'était une espèce de famille complète, effectivement.
Et la tournée d'été?
Ah, la tournée d'été, c'est venu vers les années 72, 73. Je crois que je suis de très très loin le mec qui est le record des passages sur le podium d'Europe. D'ailleurs, j'ai reçu une médaille en or de toute l'équipe quand le podium s'est arrêté. Je crois que c'est une fois, c'est 87, ou je sais pas pourquoi, il faut demander à Pantaletti qui est là. J'ai dû le faire plus de 550 fois par rapport à d'autres qui l'ont fait 250 fois. Je pense à Nicordi, ouais. Et c'était un bonheur. En plus, Jean-Serge m'appelait... moi, j'adore les plein airs, m'appeler en me disant, cette année, j'avais acheté Charlie Marwani, mon agent, on a un problème, c'est qu'il fallait trouver du pognon avec les sponsors. Donc, à l'époque, quand c'était moi, le pognon arrivait tout de suite. Donc, ils étaient contents en novembre.
C'est normal qu'il t'ait gardé,
Donc, il m'a gardé longtemps. Mmh. Et c'était un bonheur parce que c'était une caravane extraordinaire qui faisait 8 ou 10 kilomètres avec des camions qui se montaient, qui se démontaient en un temps record avec 125 personnes. C'était
sur une route, ça passait pas inaperçu, donc c'est sûr.
Ah non, on avait deux moteurs devant, deux moteurs derrière. On s'arrêtait pas, bien sûr. Et, quand on arrivait dans les villes, il y avait le petit podium qui faisait l'animation où il y avait des jeux. Harold Clay, je me souviens, entre autres, puis bien d'autres. Et puis le soir, le spectacle, c'est vrai que j'ai... Et en 17 ans, j'ai dû le faire plus de 550 fois. Et même une année, j'avais des avions entre mes galas et tout, parce qu'il y avait malheureusement 2-3 chanteurs qui tenaient pas le coup, parce que c'est dur à faire. Des fois, on est entre 10 000 et 100 000 personnes.
C'est presque une atmosphère de cirque. On peut comparer un chapiteau qui, tous les soirs...
C'est pas un chapiteau, parce qu'un chapiteau, les gens sont captifs sous le chapiteau. Là, au contraire, ils sont devant toi et très loin, et tu peux pas mettre des 100 000 personnes dans un chapiteau. Je me souviens, à Argelès, une fois, les gens étaient dans l'eau, dans la mer, et sur des bateaux même. Et le drame par rapport au chapiteau, c'est qu'on voit les gens qui se barrent s'ils s'en vont, et que notre boulot, c'est de les garder là.
Ça motive. Oui. Et tu savais rendre hommage à ceux qui tous les jours montaient le chapiteau. Retour quelques instants sur la scène du podium.
Tous les artistes du spectacle, bien sûr. Béja Flore, Thierry Pastor, Marlène, François Valéry, Laurence et moi-même, nous avons été tous très très contents. Les musiciens, tous les musiciens aussi, de passer cette soirée devant vous à Reims. Vous êtes vraiment un public merveilleux. Merci d'être venu ce soir. Vous êtes amusés? Je voudrais vous dire juste un mot.
Ce sont des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas à la télévision, que vous n'entendez pas à la radio. Ce sont des garçons qui travaillent autant, sinon plus que nous, tous les jours, qui se lèvent très tôt. Ils conduisent ces camions, ils montent ce podium, ils font cette sonorisation et ces lumières. Pour les chauffeurs, les techniciens et les monteurs d'Europe 1 ce soir, s'il vous plaît, à Reims, c'est bip-bip. Merci, merci de tout notre cœur. Tous, on vous dit salut, à bientôt, ouais.
Marc Tronchot.
Enfant d'Europe 1 réuni autour d'un enfant d'Europe 1. Et quel enfant d'Europe 1, Carlos. On revient en arrière, Carlos. Tu commences comment? On sait de qui tu es le fils, mais tu vas pas choisir la même voie. On va te retrouver dans un autre monde, celui du spectacle, et donc indirectement celui de la radio. Par quel heureux hasard? Ça se fait comment?
Oh, c'est un vieux truc, ça, parce que mon père, qui était russe, qui venait de Crimée, comme tous les immigrés, avaient envie que leurs enfants réussissent, qu'ils aient des professions honorables. Mmh. Alors, je sais qu'il adorait la médecine, qu'il était médecin, et directeur d'une école de kiné, donc j'ai voulu lui prouver que je pouvais avoir mon diplôme d'État et dans les meilleures conditions. Donc j'ai suivi mes études, pendant que j'étais Henri IV en philo, j'ai suivi mes études de kinésie à l'époque, et je suis sorti, je crois, 6e sur 3000 à Paris. Tout ça pendant que j'étais avec Sylvie et Johnny en train de tourner. Par exemple, je me souviens que mon oral de kiné, je suis revenu de... Ça devait être en 63-2. Je suis revenu de Liège en train pour passer mon oral et repartir le soir pour le spectacle. Et donc, je me suis retrouvé très jeune dans une ambiance de spectacle avec Dédie Davis-Boyer, une femme extraordinaire qui est maintenant un âge certain, dans le genre 89, et qui est toujours vivante, vaillante avec ses enfants, et qui était l'imprésario d'Antibes, où mon père avait trouvé une villa où on viageait, l'imprésario qui faisait le plus de spectacles l'été. Donc je me suis retrouvé dans le monde du spectacle, régisseur au Vieux Colombier de Jean Lépin, très jeune, et danseur avec Béchette, Luther, Sori, tous les soirs à Paris, La Huchette, Storyville, Trois Maillets.
Donc tu vas abandonner la kiné assez rapidement?
J'étais diplômé, non, j'ai jamais exercé. Ah non, j'ai eu mon diplôme, c'était simplement pour justement faire plaisir à mon père, mais j'ai jamais exercé. J'ai commencé à 17 ans dans le spectacle.
Alors, puisque tu viens d'évoquer Sylvie Vartan, on a retrouvé la première scène de Carlos à l'Olympia dans le spectacle de Sylvie Vartan. Ah. C'était en 67, 2 minutes 35 de bonheur, dont quelques secondes avec toi. Vartan à l'Olympia, concert diffusé en direct sur Europe 1. Sylvie Vartan, la grande copine, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait de toi.
Oui,
la chanson.
Oh, absolument. Non, c'était vraiment. Oh, ben tu sais tout ça.
Elle aussi, enfant d'Europe 1, d'ailleurs, au passage.
Bien sûr, enfant d'Europe 1, complètement, puisque quand j'ai connu Sylvie par son frère Eddy et Francis Dreyfus, qui étaient mes copains, on ne se quittait pas. C'est comme ça que j'ai connu Sylvie jeune, avenue Michel Bizot, et l'appartement d'au-dessus, c'était Franck Thénault. J'habitais. Et moi, de façon bizarre, j'ai beaucoup travaillé pour Europe 1 sans vraiment que Europe 1 le sache. C'est-à-dire que c'était pour Daniel Filipacchi et Franck Thénault qui faisaient les concerts. À l'Olympia, à 7h du soir, et, ou 6h et minuit, après les spectacles et avant les spectacles. Moi, j'allais mettre les affiches avec mon petit scooter, même pas encore, c'était même pas l'âge pour l'avoir, c'était, ça devait être en 58, 59, dans toutes les boîtes de jazz de Paris. On avait une vingtaine, et on me filait des billets, des très bons billets à l'œil pour, que je devais filer aux boîtes de jazz. Je les allais les vendre devant, les faire vendre devant l'Olympia, et je gagnais vachement de pognon. Déjà, grâce au fait que j'aimais le jazz, que Philippe Paquet m'avait demandé de bosser, bosser là-dedans, comme Daniel m'a demandé après de faire l'émission Salut les copains, en je ne sais pas quelle année, 65, 6, 7, ouais. Je me souviens plus.
Tu t'en souviens de cette scène?
À l'Olympia, quelle année c'était?
C'était en 67.
Ah bah oui, 67, c'est l'année où la chanson s'est créée d'ailleurs. Et c'est un peu ça qui m'a amené dans le monde de la chanson. Parce qu'après, on a fait une autre chanson avec Sylvie qui s'appelait Un petit peu beaucoup, où j'étais habillé en Oliver Hardy, où je dansais les claquettes. Ouais. Et après, on a fait une autre chanson qui s'appelait Mon singe et moi. J'étais habillé en gorille, j'arrivais sur scène, je faisais un roulé-boulet et j'occupais le terrain pendant qu'elle se changeait. Je dansais et j'ai fait ça au Japon, en Amérique du Sud, que ce soit et toute l'Afrique, c'était absolument extraordinaire, en Russie. Et c'était extraordinaire parce que chaque fois j'essayais d'inventer des trucs dans le langage du coin, basé sur les pubs qui faisaient rire les gens, pour pouvoir tenir le coup. Pendant qu'elle se...
Ça pouvait donner singe. Quoi, ça?
Oh, ça, je me souviens plus. Kinawa, Tainoa, je sais pas quoi. J'avais des copains dans le coin qui m'avaient à chaque fois... J'ai dit, tiens, montre-moi les pubs qui font rire les gens à la télé. Début de la télé aussi, dans pas mal de pays. Et ce gros singe qui devait tenir 2-3 minutes la scène racontait les pubs dans le langage du coin. Donc ça les faisait extrêmement rire et ça pouvait permettre à Sylvie de se changer. Enfin, des souvenirs incroyables. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de gens voulaient que je chante, dont Lucien Maurice. Et mon premier disque, personne ne le sait, il est sur AZ en Italie. Parce que 2 minutes 35 est devenu un énorme tube mondial. Et j'avais trouvé des producteurs, Sylvie, qui s'appelle Mario Simone et Paolo Dossen en Italie, et qui ont absolument voulu me faire chanter. Et premier disque, il venait soi-disant de signer avec AZ. Je l'ai fait là-bas. Et c'est le seul disque AZ en Italie qui a été fait, parce qu'ils n'ont pas signé en fait.
Maison de disque qui était dépendante d'Europe 1.
D'Europe 1, bien sûr.
On se retrouve dans quelques instants avec Carlos. Les enfants d'Europe 1 avec comme invité aujourd'hui Carlos. Carlos, le couple Hallyday-Vartan, tu as été témoin de sa formation, de ses orages, de ses moments de bonheur. Il y a des moments que tu retiens davantage que
oh, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Il y en a plein dont je veux pas parler, puis plein qui me remplissent le cœur de bonheur, parce que c'était vraiment une époque complètement différente de celle de maintenant, quoi. On n'avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de chômage. Dès qu'on avait son bac, on trouvait du boulot. Quand on avait une idée, il y avait des tas de gens qui étaient là pour nous filer du pognon et des preuves. Moi, en 1967, j'ai ouvert à Paris le Bistingo, restaurant avec Hubert d'Europe 1, d'ailleurs, mon pote, Hubert, avec qui on a fait un beau chemin. Ouais. Et pendant 10 ans, on a eu ce resto rue Saint-Benoît, et c'était la cantine des stars. Tous nos copains venaient là tous les soirs, de 8h du soir à 5h du matin. C'était superbe. J'habitais là, d'ailleurs. Donc, c'était une année, des moments de fête, de rêve, de bonheur, et surtout, tout était possible. C'est pas, il y a pas maintenant, là, là, il y a ci, il y a ça, il y avait pas
de moins de contraintes.
Aucune contrainte. Donc, souvenir de Johnny et Sylvie, bien sûr, c'est-à-dire quand j'ai connu, Johnny, je l'ai connu assez tôt. J'en ai peint d'ailleurs en 60, où j'ai fait tourner à Dédé Davis Boyer 8 ou 10 chansons quand il s'accompagnait tout seul à la guitare, et je faisais rentrer des gens, comme j'étais du vieux Colombier, je faisais rentrer des mômes pendant son passage, parce que le vieux Colombier, c'était quand même des tables avec du champagne et des coupes qui avaient du pognon. Je faisais rentrer les mômes à l'œil, parce que, bon, fallait le public qui soutenait, qui était dehors, mais qui pouvait pas rentrer. Et puis un jour, il me parle de Zélie Vartan, mais je dis, mais je la connais depuis qu'elle est petite, moi, parce que je lui ai en même temps eu Michel Bizot avec, et il dit, ah bon, machin. Et puis voilà, il y a eu ce coup de foudre, ils ont vécu ensemble, on a eu tellement de belles aventures, ensemble, séparés, le mariage, les soucis, les problèmes, enfin tous ces problèmes de couple que tout le monde connaît, mais qui étaient multipliés par 100 parce que c'était eux deux.
Alors, retour sur scène, nous sommes en août 78 pour le show de l'été sur Europe 1, en direct direct de la Feria de Béziers. C'est Jean-Loup Lafont qui anime, Sylvie Vartan est là, et ça fait 6 ans qu'elle n'a pas chanté avec Johnny.
Pierre, il y a un moment un peu magique, c'est que pile la nuit est tombée sur maintenant les arènes de Béziers, des lumières viennent de s'allumer, et Carlos entre en scène, et à mes côtés, si je réussis, il y a Sylvie Vartan. Ça va Sylvie?
Oui, ça va.
Tu es venue regarder le début de Carlos?
Absolument, j'ai regardé les arènes de Béziers au complet et j'ai mon cœur qui se serre. Pour lui comme pour moi d'ailleurs.
Ok, tu as beaucoup le trac?
Je dois dire que j'ai un peu le trac ce soir, oui, oui.
Depuis combien de temps tu n'as pas chanté avec Johnny?
Avec Johnny, je n'ai pas chanté depuis 6 ans.
6 ans, c'est-à-dire 72?
Je crois, oui.
Qu'est-ce que vous allez chanter tous les deux?
Surprise.
Ça va, t'es en grande forme.
Tout est voilé.
Ok, alors, voilà Pierre. Il y a des projecteurs qui balayent 18 000 têtes. Et si tu veux, on va commencer à rentrer un petit peu dans la magie du spectacle, d'accord?
Oh ben, on attend que ça, nous.
Et ben alors, si les chansons arrivent jusqu'à vous, ça voudra dire que ça a commencé.
Pour nous tous, c'est une grande fête, c'est une grande joie d'être ici parmi vous parce que vous êtes un public merveilleux qu'on a l'habitude de rencontrer un peu tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, et que Béziers pour nous, c'est déjà une fête toute seule. Et ce soir, avec le programme, avec Jojo, avec Sylvie, on est vraiment tous avec notre cœur, avec vous. Merci d'être là et venez, on part en vacances, allez! Au premier du mois d'août, on descend de partout.
C'est fou ce qu'Europe 1 était sur des tas d'endroits en France, sur des fêtes régionales.
Oui,
on a fait la fête de la Mirabelle, on a fait les férias.
Ah oui, la fête de la Mirabelle, je me souviens très bien. Mais là, l'Europe était là, je pense, c'était la radio qui enregistrait ce spectacle. C'était un spectacle assez étonnant parce que c'est la seule fois où on a chanté tous les trois ensemble. Johnny, Sylvie et moi, et c'était l'anniversaire de Sylvie, je crois, par là, ce mois d'août. Quelle date?
Oui, c'est ça, c'est en 1278.
Oui, et c'était assez émouvant de voir cette arène de Béziers qu'on a fait tellement de fois et qui est un endroit de rêve pour les chanteurs parce que bon, c'est énorme, c'est une des plus grandes arènes. Là, il disait 18 000, Patrick, mais il y a 24 000 personnes parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir tout en haut et tout, qui rentrent un peu partout sur le bas. C'est une des plus l'ambiance les plus chaleureuses. En plus, la Feria de Béziers qui correspond en général à celle-là. Je l'ai fait aussi avec Patrick Sébastien plusieurs fois, mano à mano. Je l'ai fait avec Sardou, je l'ai fait avec Dassin, je l'ai fait seul. C'est un endroit extraordinaire. Et puis voilà, cette espèce d'ambiance. Europe était là partout où il se passait des choses.
Bah oui, Europe numéro 1. Radio des stars, radio très populaire, radio des jeunes. C'est aussi la station de Salut les copains et c'est la station d'un monsieur dont tu as cité le prénom tout à l'heure, Hubert.
Ah oui.
À faire attention, le King, quand même, avec son jeu de jambes. Un jour, il va nous faire une arthrose de la hanche, et puis ça va pas prévenir dans la séquence rock cette semaine de Salut les copains. Oh, bah, venez les petits, soyez pas timides. Voici les Lionceaux. C'est une chanson de Lennon et McCartney, les célèbres Beatles, et ça s'appelle en anglais Hard Day's Night. Et ce sont quatre garçons dans le vent.
Hubert, sur Europe 1.
Ça, ça pourrait bien être le tube de l'été. Oh, qu'elle est belle. Oh, la Brigitte, qu'elle est belle. Et Gainsbourg, ah, il s'est bien placé là dans cette affaire. Oh là là, je l'aime, elle, je l'aime.
Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Voilà, un clin d'œil à Hubert.
Oui,
on a eu le plaisir de recevoir dans cette émission il y a quelques mois.
Qu'on
recommence d'ailleurs, c'était bien.
On a vécu des moments assez étonnants avec Hubert parce qu'on avait ce bistingo ensemble. Et puis, à ses débuts, on est pratiquement rentré ensemble à Europe vers 64 ou 65. Et avec Gilles Schneider aussi qui était rentré. Et lui faisait le service de nuit, si je ne m'abuse, une émission comme ça. Et moi, je faisais Salut, ou à cette époque-là, ou dans le volant, on faisait. Et puis on a monté ça ensemble en 67. Hubert, c'est un grand mec de radio, qui est un peu comme les Cogoni. C'est mecs qui ont marqué l'époque de ces justement nouveaux animateurs, comme le voulait Merlin, qui n'étaient pas des speakers.
Un de tes amis, parce qu'il y en a, des tas. On n'a que le choix. On va rester dans le monde de la musique. Tiens, il y en a un qui va être à l'origine d'une véritable révolution. Celui par qui le 45 tours va arriver en France, Eddie Barclay raconte en 99 dans le journal de Christophe Charles sur Europe 1 à l'occasion des 50 ans du micro-sillon.
L'anniversaire du 45 tours. On fête aujourd'hui les 50 ans de cette galette de vinyle. Le 45 tours est apparu le 2 mars 1949. En 48, la maison de disques américaine Columbia a commercialisé le premier micro-sillon 33 tours. Et c'est l'année suivante qu'une autre maison de disques américaine, RCA, a sorti le premier 45 tours. Le micro-sillon, c'est l'un des plus célèbres producteurs de disque qu'il a ramené en France, Eddie Barclay. Il raconte la naissance de ce support révolutionnaire au micro de Laurent Delpech.
À ce moment-là, je jouais avec mon orchestre qui était constitué de Boris Vian, de Stéphane Grappelli, dans un club qui était le club Rue Pierre Charon. Et j'avais un ami qui adorait le jazz, qui était là, un officier américain d'occupation. Donc. Et un jour, il est démobilisé. Et il m'envoie un petit fax qui contenait à peu près ces mots. Je viens de rentrer à New York. Je trouve sur mon bureau une nouvelle qui devrait t'intéresser. Un vieux savant aurait inventé un disque incassable, dit-il, et sur lequel on pourrait graver 30 cm de son ou de musique, de ce qu'on veut, sur chaque face. Et il ajoute, je ne sais pas ce que tu fais ou ce que tu as l'intention de faire, mais à ta place, je viendrai immédiatement à New York. Et je vais retrouver mon ami américain d'une part qui m'emmène dans le studio de ce savant qui était en train de finir son invention. Effectivement, c'était le micro-sillon. Et je suis reparti avec des matrices toutes faites sous le bras à Paris en essayant de faire presser ces disques que je n'ai pas pu faire presser d'ailleurs tout simplement parce que les presses qu'avaient à ce moment-là les usines ne correspondaient pas du tout techniquement aux normes de ce qu'était le micro-sillon, c'est-à-dire ça demandait des presses beaucoup plus puissantes et aussi des modules de disques différents. À la fin du compte, toutes les usines m'avaient envoyé balader, que ce soit Deka, Philips ou les autres. J'ai été voir mes amis de chez Pathé Marconi à l'époque et ils ont transformé 4 presses de leur vieux 78 tours en 4 presses micro-sillon. Et ça commence à démarrer comme ça.
Les premiers 45 tours pressés par Eddie Barclay, c'était qui ?
C'était Tire-Tire l'aiguille de René Lebas et Cigarette et Whisky et Petite Pépé d'Eddie Constantine.
Cigarette et Whisky et Petite Pépé.
On a retenu que le côté mariage en série ou serial lover d'Eddie Barclay, mais manifestement, il n'y a pas que ce côté-là. Il y a le côté visionnaire, inventeur, qui savait voir les bonnes idées. Hein.
Bien sûr, ça fait partie de cette génération de mecs extraordinaires que la vie a rendu comme ça, leur a permis d'exploser. Bon, Boris Vian s'est sorti major de centrale. Major de centrale, c'est pas 18 dans une matière, c'est 18 dans toutes les matières. Hein? Bon, et il a écrit 155 curriculum vitae, et à cette époque-là, 46-47, on reprenait les prisonniers de guerre qui revenaient de directeurs d'usines, de machin, de trucs, dans l'état où ils étaient les pauvres quelquefois, et on les remettait à leur place, bon, ce qui était très bien, sauf que ça a permis à tous ces mecs-là d'être obligés de chercher, de trouver du boulot. C'était Merlin qui a fait ses Merlin-Plage, enfin, les immeubles, c'était comment s'appelle-t-il, Borel qui a fait City Car Restaurant, c'était Vian qui a écrit, je vais cracher sur mon tombe, mais Jour, qui jouait de la trompette, qui a écrit des chansons avec Salvador, et puis c'était Eddie et sa femme qui ont lancé le micro-sillon qui livrait quelquefois à vélo, quoi. C'est extraordinaire, c'est une époque complètement charnière, un peu comme celle qu'on est en train de vivre. Il y a eu le CD entre temps, et là maintenant on vit quelque chose d'assez fou. Il va y avoir 100 000 chaînes de télé grâce à Internet. Et tout est en train de changer. Et le CD va devenir un objet obsolète. À cette époque-là, le 78 tours a été remplacé par le 30 cm, 33 et 25 cm, et par le 45 tours. Eddie Barclay, c'était autre chose que justement qu'un serial lover. C'était un homme d'amitié, de talent, de cœur. C'était quelqu'un que j'ai accompagné jusqu'à la fin. Et qui me manque beaucoup. J'avais dit d'ailleurs un jour, le jour où Eddie disparaîtra, il n'y aura plus de show business, il n'y aura que du business. Et j'avais pas tort.
On va continuer sur le registre de l'amitié dans quelques instants.
Marc Tronchot.
Carlo, c'est l'invité des enfants d'Europe 1 aujourd'hui. Des amis, on l'évoquait à l'instant, t'en as plein. Il y a des gens que t'aimes pas dans la vie ? Oui, il y a presque un blanc là.
Oui, parce que ceux que j'aime pas, je les vois pas, je les ai pas revus la deuxième fois. Il y a pas de mots qui me de noms qui me viennent. Parce que je trouve que d'abord, il faut être très tolérant avec les gens, que ça colle relativement vite ou ça colle pas, et que il y en a sûrement qui m'aiment pas, et je leur souhaite beaucoup de bonheur aussi, ça ne me gêne pas, mais je trouve que c'est un peu con de passer du temps à parler de ceux qu'on n'aime pas.
Ouais. Bon, on va pas,
on va pas s'éterniser. Il y a tellement de gens qu'on aime qu'on a.
On va parler de ceux que tu aimes, ouais. Ceux qu'on aime aussi. Tu es celui qui réunit, l'organisateur de fêtes, le baromètre qui indique toujours le beau temps. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. celui qui fait les groupes aussi, les trios. Écoute ce qui va suivre. C'était dans l'émission de Jakourevitch sur Europe 1, 5, 6, 7 en 74. Mesdames, messieurs, Michel Sardou, Joe Dassin et Carlos.
Non, longtemps qu'on s'est pas vu, j'avais encore perdu votre numéro. Ça va, oui et non, la tante Marie n'est pas très bien.
J'attends le mois prochain une augmentation.
Si on buvait un verre pour fêter ça,
allez,
faut vous laisser faire.
On sera plus chaussé du préau. Crésus et Roméo,
on va se boire toute la champagne, faire le bonheur de toutes ces dames.
Dérangez les types en frac, donner des pourboires de 10 sacs.
Ambiance cotillon serpentin.
Mesdames, messieurs, tenez-vous bien.
C'est fini, chose et du préau. Ce sera Crésus.
T'en souvenais de ça?
Ben non.
Crésus et Roméo.
Je me souviens de la chanson parce que c'était un disque que j'ai fait en 74 qu'on avait écrit avec Claude Lemel pendant toute un été de tournée d'ailleurs, et qu'on avait réalisé chez ce merveilleux Bernard Estardi qui a disparu, et avec Jacques Play qui est aussi un type assez extraordinaire qui était producteur de Dassin et de moi. Mais avec Sardou et avec Joe, on a fait 2-3 ans de tournée à chaque fois, donc c'est des milliers de nuits, de vies.
Qu'est-ce qui vous réunissait?
Le bonheur d'être sur scène d'abord, le bonheur de partager de l'humour et ce qu'on aimait. Par exemple, Joe aimait le jazz, j'adorais ça. Sardou aimait bien à cette époque-là la rigolade, la bonne bouffe, le vin, et puis le théâtre, c'était son rêve aussi. Son père qui était un type formidable, sa mère qui était des amis qu'on avait, ils avaient connu pendant D'où viens-tu Johnny en 63, parce que Fernand Sardou jouait un rôle dans D'où viens-tu Johnny qui était donc 63. Et Michel avait été un petit garçon quand il avait 14-15 ans, c'est un fan de Johnny, et on s'est connu là. Puis à travers son père et puis des amis, quand il est sorti des services militaires, il est devenu vedette avec les balles populaires. On s'est rencontré un soir au Bistingo, justement. On a dit mais c'est pas possible, on s'adore, on se marre tout le temps ensemble.
Oui, on
n'a jamais chanté ensemble. On a appelé à minuit nos agents, Charlie Marouani et Talard. Et puis on a dit voilà, bon, on veut faire du tournoi. Et on est parti 2 ans et demi pour une fête extraordinaire. On a même on a fait 2 mois et demi l'Olympia. On avait amené en tournée tout l'orchestre de l'Olympia, c'est-à-dire 28 personnes.
Et on a entendu ce que ça pouvait donner.
Et voilà, ça c'était avec Dassin, qui est aussi un homme extraordinaire, qui adorait la pêche. Et qui était... Oh, j'ai fait des blagues, si je pouvais te raconter des trucs. Voilà, une anecdote sur Dassin, quand mon père est parti d'Odessa aussi, plus tard que son grand-père, bien sûr, pour partir, lui, en France et eux, en Amérique. Et quand ils sont arrivés en Amérique, on leur demande leur nom, tu sais, comme les Américains, les gars. Et ils disaient que la ville d'où ils étaient partis, Odessa. Et on dit, bon, ben d'accord, tu t'appelleras Dassin. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Joe Dassin. Et je veux dire que c'était un garçon qui avait un humour, un esprit, une tendresse de la rêverie. Et qu'est-ce que je le regrette, et je suis pas le seul.
Animateur d'émission, Carlos, également, tu as participé à pas mal d'entre elles sur Europe 1, invité de Michel Drucker dans Studio 1 sur Europe 1 en 84. Carlos, Michel Polnareff, on écoute.
En 66, tu te souviens? T'étais tellement miro que t'avais raté le piano sur un plateau de la télévision. C'était dans une émission de Michel Arnaud qui s'appelait Tilt Magazine. Ce soir-là, Michel Polnareff avait chanté Love Me, Please, Love Me. Et tout de suite, on va accueillir quelqu'un que Michel Polnareff connaît bien. Je crois que vous êtes perdu un petit peu de vue depuis quelques années.
Non, on vient de se voir.
Ça y est, il n'a pas changé, hein?
Non.
Il a minci beaucoup. Carlos! Baby Blabla.
Bonjour Carlos. Carlos et Michel Polnareff, à une époque, ils se voyaient souvent, c'était un peu la même famille, et puis ils se sont perdus de vue. Vous avez fait des concours de nourriture ensemble, c'est
ça? Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un petit concours de bouffe un jour.
Oui.
Et je crois qu'à ta grande honte,
j'ai gagné.
J'ai perdu.
Oui, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai.
Alors, Michel Polnareff est allé aux États-Unis. Il est devenu un athlète. Il a l'air de rien. Moi, je sais, il fait beaucoup de sport. Carlos est devenu un athlète également. Il a sans doute la ceinture abdominale la plus impressionnante du métier.
Je suis l'abdominal homme des neiges.
Et je me souviens des réputations. Je me souviens à l'époque où Michel a posé en montrant la partie la plus charnue de son individu.
J'ai des affiches encore.
Oui.
J'en ai au moins une quinzaine.
Alors, il y a peut-être des jeunes qui ne savent pas. À une époque, tous les murs de Paris et de France étaient ornés de la partie.
C'est un poster rieur.
Un poster rieur, c'est ça. Un poster rieur de par là. On peut rappeler pourquoi tu avais fait ça? Non. Je me souviens plus pourquoi t'avais
posé. Sa tête était malade à l'époque déjà.
Non, c'était pour rigoler, un clin d'œil, la provoque.
Ah oui, c'était parce que j'avais un spectacle qui passait et que je cherchais quoi faire pour.
Ça avait fait fort.
Oui, et j'ai trouvé quoi faire. Ça avait très fort, j'ai beaucoup d'ennuis avec ça d'ailleurs.
Oui, ouais. Est-ce que c'était fait aussi parce qu'à l'époque, je disais, Paul Nareff, regarde, ce côté efféminé, on dirait une nana. J'entendais ça beaucoup à l'époque, toi aussi.
Tu veux dire quoi, la réputation de PD, tu veux
dire? Oui.
Ah oui, mais ça, c'est un truc qui m'a jamais vraiment beaucoup plu. C'est toujours pas mon truc.
C'est vrai, à l'époque, on disait l'implication d'homosexuel de Paul Nareff. Et il a répondu du tac au tac, si j'ose dire. Et ça m'a toujours fait sourire parce que.
C'est vraiment un homme, quand même.
Ça m'a fait toujours sourire parce que j'ai toujours vu Paul Nareff attiré par les femmes et les jolies femmes.
Ah, bah, il y a un drame, de toute façon, c'est qu'on va tous mourir sans les baiser toutes. Hein.
Comment?
Oui, même si je te file un coup de main.
Ah ouais. Michel,
très bonne humeur sur ce studio. Oui, modéré pour les calembours et les jeux de mots, Carlos.
Oui, j'aime bien ça depuis longtemps. J'étais aussi un assistant de Francis Blanche, qui était ici, qui faisait une émission qui s'appelait Les kangourous n'ont pas d'arrêt.
Ouais.
59, si je ne m'abuse. Et puis, j'ai travaillé beaucoup à travers ceux d'Avis Boyer, au début de Pilote Production. Je sais pas si tu as connu ça, t'es pas assez vieux. Avec Gérard Cyr, Jean-Yann, Jacques Martin et Francis Blanche, là-bas, Place des Victoires, et Lelouch, dont j'ai fait, qui avait pas encore fait de film, pas encore Une fille des fusils. Donc, il me disait, cherche un gros curé, t'as pas ça là-bas, on était. J'ai allé, hop, donne-moi ta soutane, et j'ai fait le curé pour une pub qui faisait, je sais pas comment ça s'appelait, les craqueurs. Bol, hein, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Non, il y avait un microcosme. D'abord, on n'était pas beaucoup. Et on se connaissait tous. Il y avait, effectivement, trois radios, deux télé. C'était là. Et puis, il y a des gens qu'on oublie aussi qui ont accompagné cette période-là. C'est Carpentier. C'est Mariti et Gilbert Carpentier qui vraiment faut rendre hommage parce que toute cette espèce de fraternité qu'on retrouve dans les trios qu'on faisait, Sardou, moi et Dassin, par exemple, ou avec Paul Nareff, toute cette fraternité qui passait éventuellement à la radio, elle est uniquement passée à la télé dans les émissions des Carpentiers, vraiment, ils sont inoubliables.
Ton moteur, c'est vraiment la bonne humeur.
Mon moteur, c'est l'amitié, c'est surtout le respect des gens, du public.
La chanson, le spectacle, l'animation de radio, c'est la bonne humeur.
Être sur scène, c'est le plus beau moment du monde, quoi. Je veux dire, quand on prend la route pour y aller, quand on est sur scène et quand on revient, on n'est plus dans sa tête, on est dans la tête de rêve, dans la tête des.
On peut pas t'imaginer chantant une chanson grave.
Tu rigoles, au contraire, j'ai des trucs en ce moment sur scène. J'ai des chansons extraordinairement belles qui font pleurer les gens. Il y a un silence. Là, je viens de faire une chanson sur les enfants battus il y a 2 ans que je chante sur scène tous les jours. Vraiment, il y a un silence de 2-3 secondes avant avec des après, je veux dire. Et c'est La Demoiselle de Déshonneur que je faisais sur scène, que j'ai créé, que Dassin a pris après, que Claude Lemel m'avait fait, qui est une très très belle chanson sur un monde de 15 ans qui va découvrir l'amour pour la première fois. Il y a pas grandi, un peu grossi seulement, hein, sauf le cœur et sauf les sentiments. Des chansons qui ont été, sauf que le gros problème quand tu t'appelles Carlos, c'est que tu t'amènes à Europe 1, ou à RTL à l'époque, ou à RMC, c'était formidable Carlos, on va se marrer. Alors c'est la bamboula, c'est tout bronzé, c'est la cantine, c'est Big Bisou, c'est Rosalie, c'est le bougalou du loup-garou. Bon, mais il y a aussi cette face cachée de la lune, comme on dit, qu'il faut découvrir et qu'on peut voir uniquement quand on vient me voir sur scène.
Il y a toujours une face cachée chez les comiques. On va terminer d'ailleurs avec un autre de tes grands amis. Un grand de cette maison également,
Coluche.
Un studio porte son nom. Je veux parler de Coluche. Ouais. Je me demandais l'autre jour lequel de vous deux avait lancé la tendance de la salopette. C'est lui.
Je sais pas, moi j'ai des salopettes depuis que je suis tout petit, mais Michel effectivement l'a mis en tant que tenue de scène, et moi je suis sur scène depuis très très longtemps avec une salopette, je rentre toujours en salopette, mais des salopettes de couleur.
Coluche qui se raconte, interviewé par Jean-Pierre
Les douze salopettes d'ailleurs, c'est un film qu'on avait fait ensemble, Les douze salopettes, je sais pas si tu te souviens, c'était un film, c'est étonnant.
Coluche qui se raconte, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, un soir de novembre 84, dans l'émission Découverte.
Est-ce qu'un destin d'artiste, il ne se construit pas à partir de ses propres défauts ?
Si, si, absolument. Absolument. Que ça même. Si jamais il y a des gens qui veulent être artistes à l'antenne et qui essayent de peaufiner leurs qualités, ils peuvent toujours s'asseoir dessus. C'est vraiment avec ses défauts qu'on devient vedette. Ouais. Oui. Ça, si on n'était pas anormaux, fous ou détraqués, les gens viendraient pas nous voir.
Ouais. Hein, alors vous entretenez quels défauts ?
Ah ben moi je suis principalement semeur de merde, bavard et qu'est-ce que je pourrais vous dire
C'est tout.
Instable.
Ouais.
Instable.
Ça se traduit comment l'instabilité de Coluche
L'instabilité, ça se traduit que j'étais vedette de musical et que j'ai laissé tomber par exemple. C'est vachement rare quand même. Ça, chez les artistes, ils essayent plutôt
s'accrocher.
De
s'accrocher.
Oui. Ouais. Non moi j'ai envie de, j'aime bien faire autre chose quoi. Même si ça marche longtemps, j'essaierai quand même de faire encore autre chose.
Oui mais c'est
de surprendre, de surprendre et d'emmerder.
Parce que Coluche, la légende raconte que vous avez fait 14 petits métiers, toutes oui. sortes de boulots.
Mais en 6 ans donc. Trois mois.
Ça va vite. Ça va vite. Il paraît que vous avez travaillé d'abord ou aussi chez un bottier. Ouais. Alors, est-ce que la recette, Coluche, pour réussir dans la vie, c'est de commencer par cirer les pompes ?
Non, je crois pas, non. Non, ça, je conseillerais ça à personne parce que ça rend service qu'aux mecs qui ont des pompes, mais pas à ceux qui les cirent.
Ouais.
Alors, moi, j'ai jamais ciré de pompe à personne et j'accuse personne de le faire. Je vois pas comment je pourrais faire, d'ailleurs, dans mon métier, puisque c'est le contraire. Mon métier, c'est... Enfin, le métier que j'ai fait de musical, c'était vraiment d'emmerder le monde. On a entendu parler de Le Luron qui s'est mis à tout d'un coup à
changer. On va en parler tout à l'heure.
De langage, et c'est bien qu'il le fasse, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'emmerde pas ces hommes politiques-là.
Là maintenant, vous avez, et pour quelque temps, Coluche, trouvez votre emploi, celui qui voit le mieux.
Je fais du cinoche parce que ça permet d'être en vacances et d'être en voyage, mais c'est un moyen aussi de pas beaucoup travailler, quoi. Je dois dire que c'est quand même un réflexe de feignasse. Et je pense pas que ça va me tenir longtemps non plus. Parce que je sens que ça revient, là. Vous voyez, ça revient, là. J'ai envie de peut-être écrire des films ou en faire, je sais pas. J'irai peut-être jusqu'à bosser, quoi.
Alors,
je promets pas, hein.
Alors, ceux qui disent que l'emblème de Coluche, c'est le lézard, se trompent.
Non, ils ont raison, mais c'est ceux-là qui travaillent le plus quand ils s'y mettent. Vous savez bien, les feignants, hein.
Lequel t'a ému le plus, Carlos, le Coluche de Ciao Pantin ou celui qui jouait du violon avec un gant de boxe ?
De toute façon, je savais très bien depuis très très longtemps que, comme on parlait justement de la face cachée, qu'il y avait deux personnages dans Michel, peut-être même trois, comme on est tous à plusieurs facettes, sauf que dans le métier qu'on fait, comme je te disais justement, on met plus en avant une des facettes. Et malheureusement, c'est un petit peu le cas de Louis de Funès, pour avoir un Oscar, il faut faire Ciao Pantin, César. C'est bien dommage, quoi, parce que c'est toujours pareil, les gens qui font rire sont un petit peu tenus à l'écart, comme les comédiens à l'époque qu'on enterrait la nuit, à l'époque de Molière, et encore que je crois que c'est en train de changer, les gens qui font rire, maintenant ça devient des gens qui correspondent à vraiment un besoin des gens, parce qu'on a vraiment besoin de se marrer en ce moment. Mais Michel Coluche, c'était... Moi j'ai vécu des moments très graves, parce que pendant Ciao Pantin, il y a vécu des moments... très très difficile physiquement et psychologiquement, et il était un Lambert formidable dans le film et un Lambert terrible dans la vie.
Merci Carlos d'être passé dans le studio des Enfants d'Europe 1.
Voilà, merci, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver.
Ça a été un plaisir de t'accueillir ici, dans ta maison.
Voilà, ben je vous embrasse tous, merci de m'avoir reçu, et Europe 1 sera toujours un bout de mon cœur.
Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, tous les auditeurs. Merci encore, Carlos. Passez une bonne fin de journée, passez une bonne semaine. Et je vous souhaite, comme à l'accoutumée, une très belle radio.